Direction le Grand Nord dès l'ouverture de ce journal. La 39e foire agricole et artisanale de Koumac a débuté ce matin et pour 3 jours. Demain, c'est le 24 septembre, fête de la citoyenneté. Retour sur une page d'histoire avec Lundsteinmetz. C'est officiel, les frontières maritimes sont rouvertes. Un premier paquebot australien est attendu le 4 octobre. En métropole, Emmanuel Macron souhaite accélérer les procédures d'installation pour les énergies renouvelables. Il a inauguré cette nuit le premier parc éolien en mer français. Le sport avec du football, les Bleus renouent avec la victoire. Ils battent les Autrichiens 2-0 lors de la 5e journée de phase de poule de Ligue des Nations. Et puis en golf, Paul Barjon commence bien l'Open de France. Le Calédonien est 3e à l'issue du premier tour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Avant de partir à Koumac, un regard sur le magazine Citoyen qui nous attendait la fin de ce, le magazine Transparence, pardon, qui nous attendait la fin de ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Avec votre invité qui sera aujourd'hui Thierry Santat.
Oui, c'est Thierry Santat, le président du Rassemblement et membre du gouvernement qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous reviendrons avec lui sur l'actualité politique récente et notamment sur la visite du ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, mais aussi sur les réactions que cette visite a suscitées et puis sur le calendrier politique que l'on peut envisager pour les prochaines semaines et les prochains mois. On se retrouve ici une demi-heure en compagnie de Thierry Santat. Ce sera juste après votre journal, Jean-François.
Et on vous retrouve à 16h45 pour le Club Politique, Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire de ce club politique, là encore, les suites de la visite du ministre des Outre-mer avec les incertitudes du calendrier et puis les réactions nombreuses des uns et des autres. Nous parlerons aussi des propositions du gouvernement en matière de fiscalité minière et de taxes sur les plus-values immobilières. Et puis nous reviendrons sur le bilan démographique publié récemment par l'ISEE pour la période 2020-2021. Un club politique qui débute, vous le savez, à 16h45 et qui est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
Prenons donc la direction du Nord pour ouvrir ce journal et plus précisément de Koumac où s'est ouverte ce matin la 29e foire agricole et artisanale. Bonjour Christophe Cara.
Bonjour, ça va ?
Oui, ça va et vous ? Vous êtes le vice-président du comité d'organisation. Enfin, ça y est, cette foire est ouverte. Ça fait 2 ans maintenant que vous l'attendiez. Hein ?
Oui, ça y est, c'est bon, elle est ouverte, on est bien contents.
Voilà, alors j'imagine qu'il va falloir attendre un petit peu avant que le monde arrive, mais comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a déjà du monde sur le site de la foire ?
Oui, oui, déjà, il y a déjà pas mal de monde qui sont arrivés sur le site de la foire. Un joli ciel bleu magnifique, donc ils ont envie de tous venir.
Voilà, et ça dure jusqu'à dimanche en plus, donc...
Jusqu'à dimanche 16h.
Quels vont être les temps forts de cette première journée ?
Alors aujourd'hui, c'était beaucoup tous les concours agricoles, les concours pour les animaux et les plus beaux stands. Ce soir, c'est le temps fort, c'est l'élection de la Miss Foire Koumac. Et voilà, déjà...
C'est déjà pas mal pour la première journée, sachant qu'il y a beaucoup de choses et d'animations qui vont tourner pendant ces 3 jours de foire autour du cheval. Hein. C'est l'une des marques de fabrique, si j'ose dire, de cette foire de Koumac.
Ah, tout à fait, oui. On a plus de 150 chevaux sur le champ de foire, dont plus de 100 chevaux inscrits pour les jeux équestres. Entre parcours du Stockman, stock des collines, voilà.
Et le public peut assister évidemment à toutes ces manifestations ?
Ah oui, oui, il est invité à venir... voir les cavaliers en découdre.
Christophe Cara, j'imagine que vous attendez beaucoup de monde pour ce week-end. Tout ce qui est parking et tout ça est bien organisé, il n'y a pas de souci.
Oui, oui, ben, comme tous les ans, nous, on a été un peu les précurseurs avec le SMA de mettre en place les équipes du SMA pour justement flécher, baliser, pour que ça arrive à rentrer beaucoup plus vite et puis que les gens, ils n'attendent pas trop dans les voitures.
Voilà, pour qu'ils puissent profiter un maximum de cette foire. Ok, bah écoutez Christophe okay. Cara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc il fait beau, on peut se rendre à Koumac pour cette foire de Koumac qui dure 3 jours. Évidemment, on suivra ça sur Radio Rythme Bleu. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Ok, super, merci à vous d'avoir pensé à nous. Au revoir.
Allez, au revoir. L'autre rendez-vous du week-end, c'est le Festival Calédonia au CCT qui est organisé par le gouvernement pour fêter les différentes communautés. Les festivités reprennent à 16h cet après-midi et se poursuivront samedi et dimanche. Festival organisé à l'occasion de la fête de la citoyenneté le 24 septembre. Fête de la citoyenneté relayée à Conné ce soir et demain toute la journée au Centre culturel Poméni. Le 24 septembre, c'est donc la fête de la citoyenneté. C'est en effet le 24 septembre 1853 que la France a pris officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie. Un épisode que nous a raconté ce matin Luc Steinmetz, qui était notre invité à 7h30.
La cérémonie a lieu à Balade en présence de l'amiral Février des Pointes, bien sûr, et les officiers du bord ainsi que les missionnaires en tant que témoins vont signer l'acte de prise de possession. Un document officiel est signé par, entre autres, tous les officiers du bord, les missionnaires qui étaient présents à Balade. Monseigneur Noir, hélas, était mort quelques mois auparavant, donc il n'a pas été présent ce jour-là, et c'est le père Rougeron qui était le provicaire qui a posé sa signature.
Donc il y a eu la même cérémonie, voilà.
Et le 29 septembre, oui, Février des Pointes avait reçu pour mission de ne pas faire la prise de possession en un seul lieu, mais en plusieurs lieux si possible, un sur la côte est et un sur la côte ouest. Il a préféré finalement le faire dans le sud, et c'est le 29 septembre 1853 qu'avec le grand chef Vendégout, l'envoyé de Février des Pointes qui était Dubouzet a fait reconnaître l'acte de souveraineté sous la forme d'un protectorat sur l'île des Pins.
Et si le rattachement de la Calédonie à la France a eu lieu le 24 septembre 1853, il a quelque sorte été confirmé un peu plus de 100 ans plus tard, a expliqué Luc Steinmetz.
Je tiens quand même à faire remarquer qu'en 1958, lorsqu'il y a eu le 28 septembre le référendum d'approbation ou de rejet de la constitution nouvelle de la Ve République, pour la France métropolitaine, ça ne valait que oui ou non à la nouvelle constitution, mais pour tout l'outre-mer, le oui valait également volonté de rester au sein de la République. On peut se rappeler que la Guinée de Sékou-Touré, par exemple, a dit non. Et est devenue immédiatement indépendante. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, où les Kanaks sont majoritaires dans la population en 1958, et où ils ont le droit de vote depuis 1946, eh bien, ils votent à 98,4% en faveur de la nouvelle constitution et en même temps en faveur du maintien de la Calédonie dans la France. Ce qui, de mon point de vue, donne à l'acte unilatéral de 1853 dont on parle, un caractère cette fois-ci bilatéral, parce que les deux parties, la France, la République, et la totalité du peuple calédonien ou les Kanaks sont majoritaires, disent oui au maintien dans la France.
Luc Steinmetz, qui était donc notre invité ce matin à 7h30, pour revenir sur cette page d'histoire, une interview à retrouver évidemment sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS et voici notre question du jour. Selon vous, la fête de la citoyenneté, célébrée le 24 septembre, a-t-elle pris tout son sens aujourd'hui? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier est à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits de la réouverture d'un ciné drive-in en Nouvelle-Calédonie. Avant de tourner une première page de publicité, cette information qui fait que c'est désormais officiel, les paquebots de croisière sont de nouveau autorisés en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement annonce qu'un premier paquebot australien, le Pacific Explorer de la compagnie P&O, fera escale de nuit à Nouméa le 4 au 5 octobre. Il sera à Lifou le lendemain. C'est le premier navire qui accostera en Calédonie depuis le 16 mars 2020 et la fermeture des frontières maritimes en Calédonie dans le cadre des mesures de prévention prises alors pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. 11h38, la suite de l'actualité en Calédonie, c'est dans un petit instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Ne manquez pas le rendez-vous Canal+. Toutes les formules à partir de Sélection Plus sont à 5000 francs par mois pendant 6 mois. Offrez-vous du cinéma ultra récent. Matrix 4, Encanto, Scream, Tokyo Vice. Et vivez les grands rendez-vous sport en 4K ultra HD. La Ligue des Champions et la Première Ligue pour seulement 5000 francs par mois pendant 6 mois. Offre valable jusqu'au 30 septembre pour tout nouvel abonnement de 24 mois à partir de la formule Sélection Plus. Bénéficiez pendant 6 mois du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Comment créer de la valeur en respectant vos valeurs? Accéder à une nouvelle génération d'épargne Société Générale, 100% responsable, à travers l'engagement de votre banque dans une démarche environnementale et sociétale accessible à tous. Vous souhaitez optimiser votre épargne? Nous avons de nombreuses solutions étudiées et adaptées à votre profil d'investisseur et vos objectifs de placement. Conditions préférentielles sur les placements en contrat d'assurance vie du 1er août au 30 octobre 2022. Société Générale Nouvelle-Calédonie, 44 rue de l'Alma, numéro de RIAS NC 17 00 55. C'est vous l'avenir.
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, un rendez-vous authentique de la brousse, c'est la 29e foire agricole et artisanale de Coumac et du Nord. Trois jours de show et de tradition, divers concours agricoles, de pétanque, groupes musicaux, de danse, karaoké géant, élection de Miss, jeux équestres et rodéo nocturne, démonstration de fun car. Alors les 23, 24 et 25 septembre, direction le Nord à la foire de Coumac, la foire la plus populaire de Calédonie. Un événement sponsorisé par la station mobile Coumac.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le syndicat des médecins libéraux s'inquiète de la violence à l'encontre de leurs confrères après l'incendie d'un cabinet à Coumac, puis l'agression à coups de poing d'un médecin de Caméré. Le syndicat indique qu'un médecin libéral exerçant à Ducos a été agressé à son cabinet cette semaine. Dans un communiqué, il apporte son soutien sincère et sa sympathie à chacun de ses confrères victimes d'agression et à leurs familles. Mais le syndicat s'interroge aussi avec gravité sur l'avenir de la médecine libérale en Calédonie. Le conseil municipal du Mont-d'Or était réuni hier soir. Plusieurs subventions ont été attribuées à des associations sportives et culturelles. Mais deux conventions ont aussi été signées avec la province sud. Écoutez, Jean-Jacques Afchin, c'est le premier adjoint au maire du Mont-d'Or.
Deux conventions avec la province, c'est-à-dire une pour les caméras de vidéoprotection. C'est pour le financement de 14 caméras de vidéoprotection le long de l'axe routier de Saint-Louis. C'est des caméras qui seront mises en place entre le carrefour de la ville du Mont-d'Or jusque le casino La Coulée, quoi. En gros, c'est ça, là. Et une autre convention pour le confort thermique dans les écoles, pour équiper nos écoles de panneaux photovoltaïques. Ça a déjà démarré, c'est la deuxième tranche. Il y a une tranche en 2022 pour 25 millions, une tranche en 2023 pour 64 millions et une tranche en 2024 pour 48 millions. Avec à chaque fois une part de la province de 75%. Ça participe aussi à la baisse du coût de l'électricité. Là, elles vont baisser de 60% la facture d'électricité déjà pour la commune. Et ensuite, ça nous permet d'équiper les écoles de climatiseurs. Ça, c'est une autre convention qu'on a avec la province.
Une dernière convention a été signée avec Prony Resources lors de ce conseil pour restaurer l'Institut océanien d'haltérophilie et en faire une maison des associations. La commission permanente du Congrès est réunie depuis 9h ce matin. 9 projets de délibération figurent à l'ordre du jour. Plusieurs textes concernent le Code de santé publique, un autre le Code des assurances. Un projet de délibération porte également sur la création du Haut Conseil des politiques de jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, les élus étudieront le rapport relatif à la gestion du fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions pour l'année 2019. Mobilisation des agents de l'OCABEN devant la mairie de Nouméa ce matin. Ils protestent contre l'appel d'offres lancé par la mairie de Nouméa pour le nettoyement de la ville. Ils craignent que plusieurs salariés ne soient pas reconduits. Une délégation de ce mouvement soutenue par l'USTKE a été reçue par le secrétaire général de la mairie de Nouméa, Romain Perrault.
Alors, on a reçu les grévistes de la société Locaben dans le cadre d'un marché qui est actuellement en cours de consultation et qui concerne la propreté urbaine de la ville. Ils ont exprimé des inquiétudes sur la reprise future du personnel. On a eu des échanges très constructifs, tout à fait respectueux, bienveillants. Ils ont compris quelles étaient les contraintes juridiques de la commande publique. On comprend les inquiétudes manifestées par les personnels, mais l'important, c'est que tout le monde ait pu comprendre dans quel cadre la ville de Nouméa avait diffusé ce marché. L'exécutif a souhaité que l'ensemble des agents de terrain fassent l'objet d'une reprise automatique dans le cadre du nouveau marché. Les salariés auraient souhaité qu'il s'agisse de 100% du personnel, ce qui n'est juridiquement pas possible. Je crois qu'on l'a expliqué, ils l'ont parfaitement compris. Donc une entrevue extrêmement fructueuse.
Côté manifestants, même s'ils sont déçus de ne pas avoir pu trouver de solution au problème auquel ils sont confrontés, ils comprennent la position de la mairie. Écoutez Lucie Chauvel, la responsable d'exploitation chez l'OCABEN.
Solution ferme et définitive à notre revendication, il n'y en a pas eu. Mais des éclaircissements d'un point de vue juridique et du travail du coup à faire par rapport à l'offre que l'on aura à proposer. Mais on s'est senti, enfin moi personnellement, et je pense que je passe pour ma collègue, on s'est senti écouté. Mais voilà, une de réponse claire, il n'y en a pas eu. Mais on comprend l'aspect juridique en tout cas auquel la mairie fait face. Et on fera en sorte, de notre côté, de faire une réponse complète et la plus favorable possible si on y arrive. La prochaine étape, du coup, c'est la rédaction de la réponse à l'appel d'offres, dont la date de clôture est au 7 octobre.
Des propos recueillis par Adélaïde Mehdi. L'enquête de l'AFD et de l'ADIE sur les besoins et les attentes des chefs des très petites entreprises, les TPE, a été présentée ce matin dans l'auditorium du centre administratif de la province sud. Des élus et services provinciaux, le MEDEF, les chambres consulaires et la CPME étaient notamment représentés, Isabelle Pelletier.
La crise sanitaire et ses multiples conséquences auront évidemment fragilisé encore un peu plus les très petites entreprises. Cette enquête aura permis de prendre le pouls de ce tissu économique, de mesurer les freins à la création d'entreprises et d'identifier les attentes des chefs de TPE. Ce matin, dans l'auditorium du CAPS, les élus, les services provinciaux et les représentants du monde économique et des chambres consulaires ont prêté une oreille attentive à ces conclusions. Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud, insiste sur le partenariat longue durée entre la collectivité et l'ADIE, avec cette année encore un soutien de 45 millions pour soutenir la création d'entreprises.
C'est important dans notre pays, pour l'égalité des chances, la cohésion sociale, qu'on développe ces outils qui permettent à tous ceux qui ont envie de s'engager, d'entreprendre, et bien d'y arriver. Alors pour nous, c'était très important que cette présentation elle ait lieu à l'auditorium en invitant la communauté des acteurs qui aident les entrepreneurs. On a invité l'initiative NC, on a invité les gens de nos directions, il y a la présence du MEDEF, il y a la présence de la Chambre des métiers, de la CCI. C'est important parce qu'on constitue une communauté avec un même objectif, c'est travailler à créer en Calédonie un environnement qui aide ceux qui ont envie d'avancer. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, cette étude, elle nous permet de mieux comprendre les attentes du terrain, des gens. Et donc, je me réjouis qu'on ait cette présentation à la province aujourd'hui.
Si l'esprit pionnier calédonien avec la volonté de créer des entreprises est bien présent, il ressort aussi de cette étude le ressenti d'un manque de reconnaissance de la part des chefs de TPE ainsi qu'un sentiment de précarité quant à la protection sociale. Ce matin, le public a été nombreux à participer à la réflexion commune autour de ces problématiques. Alexandre Rutecki, le directeur de l'ADIE, s'en réjouit.
Ça intéresse beaucoup de monde et je crois que ça c'est extrêmement positif. On a tous conscience de la chance que l'on a d'avoir cet esprit pionnier dont on parle souvent en Nouvelle-Calédonie, qui effectivement n'est pas galvaudé. Ça c'est quelque chose qu'on a en partage et sur lequel je crois on a tous envie de travailler. Et je crois que ce n'est pas naïf que de le dire, que cette séquence de ce matin a lancé quelque chose et maintenant c'est à poursuivre. On parle de l'économie sociale et solidaire, on parle de la place des femmes dans l'entrepreneuriat, on parle de la place des jeunes évidemment dans cet entrepreneuriat. Je crois que ce sont là autant de sujets avec la transition écologique qui sont à aborder dans notre modèle économique de demain. Et suite aux réactions qu'on a pu avoir ce matin, moi je suis très confiant.
Les très petites entreprises participent à l'émancipation des femmes, même si paradoxalement elles y sont encore minoritaires. Un point positif contrebalancé par la complexité des démarches administratives qui doivent être simplifiées, même si d'elle est la présidente du MEDEF.
C'est un outil, et là je le dis en tant que femme, d'émancipation. C'est un outil de valorisation de la personne qui déclare d'ailleurs se réaliser souvent dans la création d'entreprises. Et puis ça permet aussi de fixer les populations sur l'ensemble de notre territoire. Ça permet de rendre des services dont les populations ont besoin, d'avoir des très petites entreprises partout en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un véritable rôle social également, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'économie sociale et solidaire bien souvent dans le cadre des TPE. En revanche, beaucoup reste à faire pour faciliter le travail de ces créateurs d'entreprises.
La simplification administrative via le numérique est justement l'une des pistes à avoir été évoquée ce matin.
Il est 11h et bientôt 48 minutes. Après la pause, nous évoquons l'actualité en métropole. Nous parlerons notamment du projet de loi sur les énergies renouvelables ou encore de la réforme des retraites.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Tous les jeudis avec Télé NC, on vous propose, vous disposez. Toutes les infos, l'actualité, mon horoscope et ma BD.
Mon horoscope, ma BD, mes programmes télé, Télé NC, c'est mon préféré.
Besoin de bricoler le week-end? Ça tombe bien. Allwoods, votre spécialiste du bois, ouvre désormais le samedi matin de 7h30 à 11h30. Allwoods, c'est tout l'univers du bois pour la construction et en plus, il y a du stock. Une seule adresse à retenir, 22 rue Descartes à Ducos. Plus d'infos au 23 38 19.
Socapor, votre partenaire sanitaire depuis 1970, vous présente la marque Tona, la qualité allemande, associée à la simplicité et au design. Jusqu'au 8 octobre, profitez d'une remise découverte de 35% sur les ensembles de salles de bain River 800 et River 1200. Socapor Plexus, 63 rue Fernand Forest à Ducos.
Socapor, donnons du sens à votre décor.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie. La suite d'Infomag, Jean-François Bodin.
En métropole, le projet de loi sur les énergies renouvelables sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Emmanuel Macron l'a en quelque sorte devancé en inaugurant cette nuit pour nous le premier parc éolien en mer en France. 80 éoliennes qui devraient alimenter 700 000 personnes en électricité d'ici la fin de l'année. Il est installé au large de Saint-Nazaire. Inauguration qui a été l'occasion pour le chef de l'État aussi de faire passer quelques messages. Jacques Serret pour Europe 1.
Emmanuel Macron veut simplifier les procédures, aller deux fois plus vite, dit-il, car le parc éolien de Saint-Nazaire a mis 10 ans pour sortir de mer et il ne souhaite pas que les autres projets à venir mettent autant de temps.
On va réduire les délais de contentieux, en étant de limiter à 3 fois 10 mois, soit 2 ans et demi, la durée totale des contentieux maximale. Certains peuvent dépasser 4 ans aujourd'hui. Et puis simplification des procédures pour aller plus vite, en gagnant 3 à 6 mois sur les délais d'enquête publique et autorisation environnementale.
Une ambition qui concerne également l'éolien terrestre.
On devra faire de l'éolien sur Terre. On a en fait concentré l'éolien terrestre sur très peu de territoires. Très peu. Donc il va falloir ouvrir le jeu.
Ces mesures feront partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres lundi sur l'accélération des énergies renouvelables. Une accélération qui doit aussi se concrétiser dans la filière nucléaire. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux le chef de l'État.
On sera dans la même logique sur le nucléaire avec un texte de loi qui nous permettra d'adapter les procédures existantes en matière d'urbanisme pour favoriser le développement des premiers sites identifié.
Emmanuel Macron qui tente d'apporter là une réponse à la crise énergétique, mais ces mesures sont loin d'être effectives, tant elles risquent de mettre en ébullition l'Assemblée nationale dans les semaines à venir.
Et ce n'est pas le seul sujet qui risque de provoquer de vifs débats au Palais Bourbon. Il y a aussi la réforme des retraites qui fait d'ailleurs déjà beaucoup parler. La plupart des groupes politiques au Parlement ont été reçus par le Premier ministre Elisabeth Borne. Si certains ne sont pas opposés à une réforme comme les Républicains, ils sont tous en revanche d'accord pour que le texte ne passe pas en force. Le gouvernement a déjà parlé de l'éventualité d'avoir recours au 49-3 ou d'introduire simplement un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. C'est non, a par exemple expliqué Marine Le Pen à sa sortie de l'entretien avec le Premier ministre.
Nous sommes tombés d'accord pour constater que nous étions totalement en désaccord sur l'intégralité des textes qui vont arriver devant l'Assemblée nationale. Voilà. Sur la réforme de l'assurance chômage, le projet de loi de finances, la volonté du président suggérée de faire passer la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, je lui ai clairement dit que s'ils entendaient faire passer la réforme des retraites par l'intermédiaire d'un amendement en utilisant le 49-3, alors nous déposerions une motion de censure et nous voterions les motions de censure qui seraient déposées, quelle que soit leur origine.
Plus mesuré, Olivier Marleix, le chef de file des députés LR, estime que cette réforme est un sujet qui ne doit pas être traité à la va-vite.
Une réforme, ça se fait avec un minimum de concertation, un minimum de confiance. Et pour l'instant, la méthode choisie par le gouvernement n'est clairement pas la bonne. Pour nous, il ne saurait y avoir de réforme par amendement dans le PLFSS. Le gouvernement doit prendre le temps d'organiser un minimum de concertation. Une réforme des retraites, c'est pas seulement une question comptable, c'est pas seulement une question donc de report de la limite d'âge, qui est un sujet évidemment qui doit être sur la table. Ça touche plein de questions et ça peut pas être fait par à la va-vite comme ça.
Et de son côté, Emmanuel Macron tente de calmer le jeu. Il réaffirme la nécessité de réformer le système de retraite, mais il incite le gouvernement à trouver la bonne méthode.
Le gouvernement doit lancer une discussion avec les forces sociales, c'est-à-dire syndicales et patronales, avec les forces politiques, et trouver, c'est son travail avec le Parlement, la bonne manœuvre. Et donc ils verront comment cela doit cheminer. Ce qui est sûr, de là où je suis, je vous le dis avec clarté, nous ne pouvons pas ne pas là-dessus collectivement changer. Nous sommes l'un des pays d'Europe dont les âges sont les plus précoces. Et donc si on veut faire cela, on doit le faire de manière transparente, de manière claire, de la manière la plus apaisée possible. Et la vérité, c'est qu'il nous faut travailler plus et produire plus de richesses dans notre pays. Si nous voulons protéger, avoir une politique de justice sociale et défendre le modèle social français, sa force et son avenir.
Emmanuel Macron qui s'exprimait sur cette réforme des retraites lors de l'inauguration du parc éolien en mer. Le conflit en Ukraine et le forcing de la Russie. Moscou doit organiser demain un référendum d'annexion dans 4 régions ukrainiennes sous contrôle russe. Ils vont placer les Occidentaux en difficulté puisque Vladimir Poutine va considérer ces territoires comme russes et il a prévenu désormais que toute menace contre l'intégrité du territoire russe donnerait lieu à réplique. En attendant son annonce d'avoir recours à 300 000 réservistes et déjà suivi des faits, Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Selon plusieurs médias russes d'opposition, les recrutements ont commencé dès hier soir. Dans la région de Buryatie, par exemple, dans le sud de la Russie, le site Medusa raconte que 7000 réservistes inscrits au registre ont reçu la visite dans la nuit de membres de l'administration russe, leur demandant de se présenter immédiatement au bureau d'enregistrement militaire dans la région. Plus à l'est, dans la ville de Neryongri, le média local Taiga Info diffuse sur son compte Twitter une vidéo où l'on voit des réservistes volontaires dire adieu à leur famille dès la sortie d'un bureau de recrutement improvisé avant de monter à bord de bus en direction des camps d'entraînement. Des vidéos similaires prises dans plusieurs grandes villes du pays sont relayées sur les réseaux sociaux depuis ce matin.
Et puis notez que la nuit dernière, Kiev et Moscou ont procédé à un échange de prisonniers, 55 soldats russes contre 215 soldats ukrainiens, ce dont s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Aujourd'hui, nous avons 215 bonnes nouvelles. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Radio Rythme Bleu, 11h55.
L'actualité dans la région avec ces images qui ont fait le tour du monde. 230 dauphins pilotes échoués sur une plage isolée de l'ouest de la Tasmanie. 32 seulement d'entre eux ont pu être sauvés par des spécialistes des parcs nationaux australiens. Jean-Pierre Zajac.
Le responsable régional du service des parcs nationaux, Brendan Clark, a indiqué hier soir que 32 seulement des dauphins pilotes ont été remis à flot très au large de la plage où ils étaient échoués depuis mercredi. C'est un excellent résultat, a-t-il dit, avant de préciser que 3 autres globicéphales aperçus vivants sur une zone très retirée et difficile d'accès de la côte seront, il l'espère, sauvés dans la journée. Toujours selon Brendan Clark, les carcasses des dauphins pilotes déjà morts seront immergées à environ 40 km au large dans les eaux profondes qui entourent la Tasmanie. Il a ajouté que des nécropsies seront pratiquées sur certains spécimens afin de tenter d'établir les raisons pour lesquelles cet échouage s'est produit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h56. Football, les Bleus de Didier Deschamps renouent avec la victoire. Ce sera le premier titre de la page sport que l'on retrouve dans un instant avec Morgane Boucher.
RRB, 11h13, Infomag, Jean-François Bodin. Du 23 au 25 septembre, ne loupez pas les Masters Mobile organisés par la Gourmette. 3 jours de concours interclub de sauts d'obstacles et de vitesse. Sans oublier le grand spectacle samedi soir. Restauration sur place, entrée gratuite.
Waouh ! C'est les soldes chez Meubles 2000. Du 27 août au 24 septembre, profitez de moins 15 à 50% de remise sur tout le magasin. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h, Meubles 2000 vous accueille 3 rue Papin derrière Burger King à Ducos. Plus d'infos sur Facebook, Instagram et meubles2000.nc.
Attention, ceci est un message de votre magazine Coco TV. Retrouvez aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes votre magazine télé préféré Coco TV.
Actu films, séries, streaming, recettes, jeux et bien sûr tout le programme télé de la semaine au grand complet.
Alors n'oubliez pas, Coco TV, c'est aujourd'hui avec les nouvelles calédoniennes.
Ceci était un message de votre magazine Coco TV.
Coco TV, l'actualité de tous les écrans.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Decathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Decathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Le sport avec donc d'abord du football. Morgane Boucher et l'équipe de France retrouvent le chemin de la victoire. Les Bleus ont battu l'Autriche 2-0 ce matin lors de la 5e journée de Ligue des Nations.
Après 4 matchs sans victoire au mois de juin, les hommes de Didier Deschamps ont renoué avec le succès au Stade de France. Les Bleus ne sont pourtant pas épargnés par les blessures. Les remplaçants de Karim Benzema, Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Théo Hernandez n'ont pas manqué leur rentrée. La liste des blessés s'est encore allongée ce matin. Le gardien Mike Maignan et le défenseur Jules Koundé sont sortis sur blessure. Côté satisfaction, Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont les buteurs. Écoutez la réaction de Didier Deschamps.
Il n'y a rien de mieux que la victoire. C'est vrai qu'elle nous a fui au mois de juin, même si on a fait de bonnes choses, mais on n'a peut-être pas eu la réussite aussi. Le dernier match en juin, c'était pas bien passé en termes de résultats, donc c'est une très belle soirée.
Grâce à cette victoire, les Bleus ont leur destin en main pour rester dans la Ligue A de la Ligue des Nations. Ils affronteront le Danemark lundi matin à 5h45 pour se maintenir dans l'élite de cette compétition. Les Danois qu'ils retrouveront lors de la Coupe du Monde au Qatar le 27 novembre.
Autre victoire à souligner, cette fois-ci c'est en basket. L'équipe de France féminine a débuté la Coupe du Monde par une victoire 70-57 contre l'Australie à domicile.
Les Bleus ont réalisé un gros coup d'entrée, pourtant handicapés par l'absence de nombreuses joueuses également. Les Françaises ont fait tomber l'Australie chez elles avec la manière. Elles affronteront le Canada à 19h ce soir pour quasiment valider leur billet pour les quarts de finale.
Et puis en golf, Paul Barjon dispute l'Open de France sur le golf national près de Paris et le Calédonien est troisième à l'issue du premier tour.
L'ancien joueur de Dumbéa a rendu une carte de 65 à moins 6 sous le par. Il s'est retrouvé provisoirement en tête avant le départ de la deuxième moitié du champ. Paul Barjon est à 3 coups du Danois Rasmus Højgaard et à 1 coup du Suédois Alexander Björk. Paul Barjon a connu une belle journée. Lui qui vient de perdre sa carte sur le PGA Tour n'est pas revanchard. Il joue ce tournoi sans pression.
Une super journée du début à la fin où voilà, tous les coups un peu, même quand je visais un peu du milieu du green, ça allait un peu plus vers le drapeau, donc c'est toujours agréable. Et c'est surtout un tournoi où voilà, par rapport aux autres joueurs du champ, moi c'est un tournoi bonus où il n'y a pas de pression au niveau des points et tout ça. On peut être un peu plus agressif sans trop d'enjeux. Donc évidemment, comme tous les tournois, on a envie de gagner, c'est pas un tournoi en vacances. Mais voilà, on joue plus relâché que quand il faut faire moins 5, 3 fois d'affilée pour regarder sa carte, quoi.
Ils sont 29 tricolores sur ce tournoi, dont 3 dans le top 10 après le premier tour. En plus de Paul Barjon, on retrouve Julien Brun et Martin Couvrat, la quatrième place à moins 5. Martin Couvrat qui est le meilleur amateur en ce début de compétition.
Merci Morgane. Midi sur Radio Rythme Bleu, c'est la fin de ce journal, mais vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le magazine Transparent. Cette semaine, Elisabeth Noir reçoit Thierry Santal, le président du Rassemblement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.